de Gueule Jeune.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Geoffrey, vous êtes dans Galéja, l'émission culturelle mais surtout culturiste ici sur Radio Alpa 107.3 Le Mans. Alors, je suis un peu paumé, j'ai déjà pas pris ma fiche, donc on va démarrer gentiment. Je vais pas vous mentir, je suis très heureux de faire cette émission aujourd'hui, parce que faire de la radio et avoir l'opportunité de recevoir un invité comme celui que j'ai, c'est pour moi le top du top, on va pas se mentir. Mais comme je suis très fan de son métier... Je suis face à un dilemme, il y a beaucoup de questions que je vais poser, mais j'ai déjà la réponse. Mais bon, le métier veut que je le fasse dans les règles de l'art, donc je le ferai très bien, et je poserai malgré tout quelques questions dont moi j'ai envie d'avoir la réponse. Je vais pas vous faire languir plus longtemps, j'ai le privilège de recevoir le comédien Marc Lesser. Comment vas-tu ?
Ça va bien, merci, bonjour Geoffrey, bonjour tout le monde.
Alors, t'es l'une des voix les plus connues, selon moi.
Oula.
Oula. Au commencement, il y a eu les Aristochats.
Oui.
Après, il y a eu Pinocchio, le deuxième doublage.
Ouais, ouais.
Enfin, je vais pas tout faire parce que sinon, ça va être très très long. Puis, tu as enchaîné. Après, tu as été Alex dans Buffy contre les vampires.
Oui.
T'as fait Johnny Depp dans 21 Jump Street.
Ouais. J'ai pour la coup de vieux, là.
Bon, on enchaîne avec Gohan adulte, Trunks du futur, Broly dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super qui est toujours en cours.
Ouais.
Et le plus connu reste Matt Leblanc, notamment dans Friends, épisode, ouais. Et sa dernière série que j'aime.
Papa a un plan.
Et tu as eu fait encore tellement, tellement, tellement de choses.
Ouais, ça fait un bout de temps que je suis dans les parages. Ouais.
Donc, avant qu'on démarre et de rentrer dans le vif du sujet,
ouais.
Je vais lancer le premier son de l'émission. C'est un son d'une ancienne invitée, c'est Azurite, c'est Barefoot, et on revient juste après. Et voilà, c'était donc Azurite avec Barefoot. Nous sommes de retour dans Galéjade sur 107.3 Le Mans et je suis en compagnie de Marc. Donc Marc,
oui.
Comment es-tu arrivé dans ce milieu merveilleux qu'est le doublage ?
Alors, il était une fois, les petits enfants, c'était il y a très très longtemps, une fée avec sa baguette magique. Non, moi je viens d'une famille, on va dire, ma mère était artiste. Mon père était un GI américain, un militaire. On suivait notre mère avec ma sœur aînée, on suivait ma mère jouait dans un peu partout en Europe. Et on la suivait, tout ça, pour des raisons familiales. On était basé en Allemagne, en fait. Et après, on est revenu habiter en France. Je devais avoir 7 ans. Et moi, je voulais être musicien, donc j'allais au conservatoire. Je vais essayer de vous la faire la plus courte possible.
Non, mais prends le temps qu'il faut.
Et en fait, ma sœur aînée voulait rentrer à l'opéra, faire de la danse. Et ma mère a trouvé l'école des enfants du spectacle, qui est une école à mi-temps. Le rêve de tous les mômes, on allait à l'école à mi-temps, parce que ça nous laissait le temps d'avoir des activités artistiques, soit des cours, soit des enfants qui jouaient, qui tournaient, etc. Et dans cette école, à l'époque où j'y allais, donc on est en 1970, hein,
début des années 2000.
C'est ça, vous n'êtes pas nés. Dans cette école, il y avait encore des castings, des metteurs en scène qui venaient parce qu'ils savaient qu'il y avait des enfants, acteurs, etc. Et j'ai commencé à tourner. On est venu, j'ai été choisi pour faire un truc dans un film, quoi. Et puis, j'ai fait partie d'une petite troupe d'enfants qui jouaient pour des enfants. Voilà. C'était le jeudi après-midi, nous, à l'époque. Hein. Et puis, une famille qui faisait du doublage, a dit à mes parents, « Ah, ils cherchent une voix d'enfant pour un redoublage, parce que c'était déjà le deuxième doublage. » Donc, mes parents m'ont emmené faire le casting, faire l'essai, et je suis choisi. Et c'était donc pour faire le chat Berlioz dans Les Aristochats. C'est vraiment mon tout premier doublage.
Et c'était le deuxième doublage déjà ?
C'était déjà... Bah oui, parce que je sais que je suis très vieux, mais le film est quand même sorti la première fois, je crois, en 1956 ou un truc comme ça.
Hein. Ouais, non, mais tu vois, je pensais que c'était...
Ça, c'était en 70.
Je pensais que c'était pour Pinocchio le deuxième doublage.
Et ben, pareil, ça doit être la même histoire. D'accord. C'est aussi un deuxième doublage, ouais, parce que c'est des films comme un peu plus anciens.
Ouais, mais les deuxièmes doublages sont venus quand même assez rapidement, alors.
Je crois qu'il y avait aussi des histoires techniques. La technologie évoluait, voilà. D'ailleurs, j'ai énormément de chance, parce que les deux gros que j'ai fait, parce que j'ai fait d'autres choses pour Disney, c'est toujours les mêmes versions.
Oui, c'est vrai.
Alors que beaucoup ont été redoublés, soit parce que des fois, ils ont des petits procès, des histoires de droit. On va pas trop en parler. Mais surtout pour des trucs techniques, tu vois, quand il a fallu faire des DVD, des Blu-ray, des choses comme ça. Pour numériser les films, ils avaient des petits soucis. Mais moi, j'ai du bol, et Pinocchio et les Aristochats. C'est toujours la même version. Ouais.
Ah, c'est cool.
Donc, c'est un très, très beau souvenir. Et si vous voulez même l'anecdote, comme on habitait un peu partout en Europe, je parlais français, je parlais anglais, et je parlais un petit peu allemand et tout ça. Et en fait, je lisais pas le français encore parce que je venais d'être réinscrit. Donc, j'apprenais mes phrases par cœur et on me tapait sur l'épaule au moment où il fallait les jouer pour les faire. Donc, voilà.
Et t'as pas fait en allemand ni...
Non, okay. Ça, pas les Aristochats. Il y a un film où j'ai fait et l'allemand et le français, mais...
D'accord. Donc, comme je le disais, pour moi, t'es l'une des voix les plus connues qui a marqué les années 90-2000 avec des personnages iconiques. Toi, comment tu l'as vécu ces années-là où est-ce qu'il y a eu l'explosion, notamment de Joey dans Friends? Comment ton rapport à ça?
En fait, il y a plusieurs choses. Comme j'ai commencé très jeune, j'ai toujours fait du doublage. Alors, il y a eu des périodes, comme dans toute vie d'artiste, où tu fais plus ou moins un truc. Moi, j'ai eu toute une période, quand j'étais adolescent, jeune adulte, où je faisais plus de musique, je suis parti aux États-Unis, etc. Donc, où j'ai fait moins de doublage. Donc, tout ça est étalé sur un certain temps, mais... On va dire l'époque où vraiment il y a eu une explosion, c'était parce qu'il y avait plus de choses à doubler, déjà pour commencer. En France, c'est beaucoup quand la chaîne 5 est venue. Il y a eu plein de séries, du coup, d'importées, chose qui existait moins en France avant. Et puis, il a commencé à y avoir les animés et tout ça. Donc, ça a donné plus de boulot. Et c'est bizarre parce que finalement, nous... On bossait tout seul dans le noir dans nos studios. On voit pas au doublage, tu vois pas tes spectateurs. Quand t'es sur scène, tu vois les gens. Si tu tournes, tu peux rencontrer les gens. Tu vois l'effet de ce que tu fais sur les gens un peu plus facilement. Le doublage, c'est en fait maintenant et depuis quelques années que le doublage intéresse les gens et grâce aux réseaux sociaux que finalement on a le retour de ce qu'on faisait dans les années 90. Donc c'est assez curieux comme situation.
Ok. J'en profite pour introduire Pauline, qui est déjà venue plusieurs fois dans l'émission.
Oui. Dites bonjour à Pauline. Bonjour Pauline.
T'as le droit de dire bonjour Pauline. Hein.
Bonsoir Geoffrey, bonsoir à tous et bonsoir Marc.
Bonsoir Pauline.
Je pouvais pas passer cette émission avec toi sans demander à Pauline d'intervenir si elle avait quelques questions sur Friends. Donc, je vais laisser la parole à Pauline.
Merci beaucoup. Déjà, pour commencer, est-ce que vous vous attendiez à ce que Friends ait autant de succès, en tout cas à l'époque, et est-ce que, et à ce que ça perdure autant avec les années?
Alors, ni l'un ni l'autre. En fait, au début, moi, je pensais même que ça marcherait pas tant que ça en France, parce que il y avait un côté trentenaire en coloc en France, ça se faisait pas encore tant que ça. Voilà, on est quoi ? C'est sorti en France quoi en 94, je crois, un truc comme ça. Et c'est sorti très discrètement parce qu'au départ c'était que pour Canal Jimmy qui voulait surtout pousser la VO, mais leur cahier des charges les obligeait à passer la VF. Donc ils devaient la passer genre à minuit, un truc comme ça. Donc moi je pensais que c'était très new-yorkais et très américain. Donc j'étais pas certain que ça fonctionne. Et puis alors quant à la durée, c'est juste incroyable parce que oui, à l'époque, il y a un moment quand ça a explosé, on nous disait bah c'est la plus grosse série qui ait jamais eu quoi en termes de succès. Maintenant que quoi 25, 30 ans presque après, ça continue finalement. Et il y a un nouveau public, puisque dans les conventions où je suis invité, je croise maintenant des gens qui ont 13, 14 ans, 12 ans et qui s'y remettent. Donc, je me dis, la vache, j'aurais jamais cru. Surtout pour une série qui est terminée, qui n'a pas d'actualité. Ouais. Toi, tu parlais de Dragon Ball dans ta présentation. Dragon Ball, il y a quand même encore un peu d'actualité. Il y a eu les Dragon Ball S, il y a les films. Ça relance un peu tout Dragon Ball.
Oui,
quoi,
c'est quelque chose qui s'arrête
fois.
Pas, quoi.
Voilà, donc, alors que Friends, à part malheureusement quand il y en a un qui décède, il n'y a pas d'actualité, quoi, et que cette série continue. Puis il y a un attachement, les gens sont attachés à cette série. Je suis étonné quand les gens me disent « Ah, mais je mets la série... » Par exemple, il y a des artisans, ils me disent « Moi, je bosse comme si c'était la radio. » Et je mets le DVD de Friends en français en plus, et je connais tout par cœur et ça me fait marrer rien que de vous entendre. Ils regardent même pas l'image, ils sont en train de bosser quoi. Et ça me touche beaucoup en fait en vrai.
Ah, mais je confirme, je fais pareil. Je suis partisan mais bah, je fais la même chose.
Voilà.
Vas-y si t'as.
Une petite deuxième question. Parmi tous ces projets de doublage que vous avez fait depuis tant d'années, est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a rendu vraiment fier? Pas forcément que vous avez senti comme étant réussi, mais qui vous a rendu fier et qui vous rend encore fier aujourd'hui.
Écoute, c'est compliqué parce que j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Alors oui, j'ai une petite marotte en ce moment quand même, c'est que je trouve qu'il y a, et c'est pas que parce que j'étais dans ces doublages-là, mais je trouve qu'il y a toute une série de films des années, je dirais fin 80, début 90, qui sont un peu, qui ont été un peu oubliés. Alors, il y en a dans lesquels j'ai doublé, notamment, je vois un des premiers films de Scorsese, Alice n'est plus ici, j'ai retrouvé ça dernièrement. C'est quand même des jolis films, peut-être qu'ils sont un peu datés. Je me rappelle aussi d'avoir fait un petit rôle dans Padre Padron, un des premiers films des frères Taviani. Tu vois, c'est quand même des gros trucs. Et je me dis, on a un peu oublié tout ce cinéma-là pour les gens qui sont cinéphiles. Et je suis fier d'avoir participé à ces trucs-là. J'ai même dû faire des petits trucs sur un Fellini quand j'étais ado. Je trouve ça pas mal, quoi, quand même. Et voilà. Et c'est vrai que pour parler plus précisément, j'ai fait une série. C'est un gars que j'ai déjà doublé, qui s'appelle Michael Raymond James, que je double de temps en temps. Le truc le plus célèbre qu'il ait fait, il était dans Once Upon a Time.
Ouais.
La toute première fois que je l'ai doublé, c'est dans un film qui s'appelait Black Snake Moon, je crois me souvenir, truc comme ça.
Donc ça fait
vraiment un bout de temps que je le double. Et il a fait une petite série qui s'appelle Terrier, et qui est vraiment une saison est passée, et puis ils l'ont pas renouvelé, et où il est vraiment superbe, et où la série est magnifique. Voilà, ça, c'est des trucs dont je suis assez fier. Mais j'ai eu tellement de chance, j'ai fait tellement de trucs, soit barré, soit sympa. Pas toujours des grands rôles, d'ailleurs, tu sais.
Il y en a un qui me vient en tête, et on a échangé juste avant, dans Le Monde de Nemo.
Ben oui, tu vois, c'est moi qui ai le plus de rôles dans le monde de Nemo, ok?
C'est
que ce soit clair. Je fais 300 mouettes à moi tout seul.
Voilà. C'est pas le plus grand rôle du film.
Non, mais j'ai eu beaucoup de mal à me souvenir de mon texte. C'était à moi! Et ça, par exemple, c'est des souvenirs, parce qu'il y a ça. c'est pas toujours la qualité, effectivement, comme tu disais, de ce que tu fais. Il y a les gens avec qui tu travailles, il y a l'originalité de ce que tu fais. Passer trois plombes, je me suis saoulé hein, quand même, au bout d'un moment, mais passer deux, trois plombes à faire « à moi », parce qu'on a fait plein de pistes, des rythmes différents, des timbres, des hauteurs différentes, parce qu'ils voulaient, au mixage, tu vois, pouvoir avoir plusieurs trucs à essayer pour qu'il y ait le phénomène de groupe, quoi.
Mais voilà. Tu l'avais dit dans une autre interview, souvent, quand il y a des rôles un peu barrés, un peu décalés, on pense à toi.
Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Ouais, j'ai doublé beaucoup de teubés et beaucoup. Ah. Non, mais aussi des psychopathes quand même. Des mecs, parfois pas toujours très. Mais j'adore, je préfère ça. Je suis très mauvais. J'ai fait un petit peu des séries, les trucs qui passent l'après-midi, là, comment ça s'appelle ?
Les feux de l'amour, des choses
comme
ça.
Ouais, genre les feux de l'amour. Je m'ennuie, je me trouve très mauvais là-dessus parce que c'est pas mon truc, quoi. J'avoue.
Alors, j'avais entendu, je ne sais plus qui en parlait, disant que, en fait, mine de rien, les comédiens français qui faisaient le doublage là-dessus, ils rajoutaient vraiment quelque chose parce que même
certains
acteurs.
Ah non, mais
c'est des brutes.
Non, mais d'abord, c'est nos potes, enfin, c'est ceux que t'entends dans d'autres choses. Ouais. Hein. T'as Christophe Lemoyne qui a été longtemps là-dessus, oui. t'as des gens super qui sont là-dessus. Mais il faut. Faut vraiment se mobiliser. Tu sais, doubler un beau film avec des bons acteurs, je vais pas dire que c'est... c'est facile, en fait, c'est facile. Tu te fais embarquer.
Ouais, t'as le matériau de base qui est là, quoi.
Le matériau de base est là. Quand tout d'un coup, tu tombes sur un truc qui est quand même pas évident, qui est un peu mal écrit et qu'il faut quand même un petit peu jouer, quoi, faut te mobiliser, faut y aller quand même, faut du courage. Et moi, je suis très admiratif des copains qui sont là-dessus.
Avant d'enchaîner avec la suite, on va écouter un son que tu as choisi, Marc.
Oh là.
C'est donc Crosby, Stills & Nash.
C'est
Suit Judy Blue Eyes, c'est
ouais.
ça ?
Ouais, c'est ça.
Je lance et on revient juste après.
Ouais. Ah, c'est cool. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Yourself away from me now. You are free, and I am crying. This does not mean I don't love you. I do. That's forever. Yes, and for always. I am yours. You are mine. You are what you are.
she's so free. How can you catch the
Et voilà, c'était donc Crosby, Stills & Nash pour Suit Judy Blue Eyes. Vous êtes toujours dans Galéjade sur Radio Alpa. Merci Marc, mais pourquoi ce choix ?
Oh, c'est vraiment la musique que j'écoutais quand j'avais, je sais pas, j'ai découvert ça, j'avais 13-14 ans. Et avec Neil Young, avec tous ces groupes-là. Et c'est vraiment pour ça que j'ai eu envie de faire de la musique et de chanter, d'ailleurs. Parce que...
Donc, t'es chanteur à
au
à
départ,
côté aussi.
Ouais, je suis chanteur. Et puis, j'étais vraiment un folkeux, quoi. Voilà, tout ce qui était Neil Young, Bob Dylan, Crosby, Stills, Nash, tous ces trucs-là, quoi.
Ok. Et donc,
avec les cheveux longs, tout ça, quoi.
Ah, tu parles de cheveux longs. Justement. Tu parles de cheveux longs. C'était aussi une des références que j'avais. Quand il y avait un mec à cheveux longs dans une série qui avait une phrase courte ou enfin une petite apparition, on pensait aussi à toi.
Mais ça, c'est une blague avec Donald Renew. Si vous voyez ce qu'il sait. C'est-à-dire
bien sûr.
Je lui ai raconté l'anecdote une fois. Quelqu'un me dit, ah, j'ai trouvé un rôle pour toi. Il est génial. Tu vas voir. Je viens. Et oui, le rôle était sympa. Mais oui, parce qu'il me dit, il a exactement la même voix que toi. Je suis curieux de voir, quoi, tu vois. Enfin, d'entendre. Et j'arrive, et en fait, pas du tout la même voix que moi. Par contre, à l'époque, j'avais une très grande queue de cheval, les cheveux très longs. J'ai souvent eu les cheveux très longs avec une queue de cheval. Et le mec, en fait, il est coiffé comme moi, quoi. Tu vois. Et je fais, ok, d'accord, oh, très sympa, merci, tu vois. Et j'ai raconté ça à Donald, ça l'a fait hurler de rire. Et donc, il m'a fait venir une fois sur un mec qui avait une queue de cheval. Donc, je sais plus trop quel film, et du coup, c'est resté une joke entre nous.
Attends, je vais revenir quand même à mon conducteur.
Oui, s'il te plaît. Ouais. Sois sérieux, Geoffrey.
C'est un de mes défauts, les plus grands défauts. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te reconnaisse par rapport à ta voix ?
Oui, ouais. Ça arrive. Et je veux dire, oh, pas tous les jours, hein, faut quand même que restons humbles. Mais ça arrive
tous les deux jours, plus souvent.
Oui. Non, mais ça arrive de plus en plus souvent. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, il y a un phénomène d'intérêt. Ah, le doublage, quand les gens regardent des vidéos sur YouTube, tout ça, ils voient bien que c'est ludique, ça les fait marrer. Et puis, ils se rendent compte qu'on est partout dans leur vie, en fait.
Ah, c'est clair.
Parce qu'il y a le doublage. Mais mine de rien, il faut aussi de la voice-over. On fait de la pub sur la radio. Des fois, il y a des copains qui ont fait des trucs d'attente au téléphone. EDF, il me semble qu'il y avait Marion Gamme, malheureusement, qui vient de décéder. Elle a fait beaucoup de doublage. Ouais. Et à un moment, elle faisait je ne sais plus quoi, La Poste, EDF, je ne sais plus quoi. Donc, tu appelles, hop, tu entends une voix que tu connais. Et les gens se sont rendus compte petit à petit que finalement, on était partout. Et voilà. Donc, des fois, tu es en train de commander un café ou tu es à la caisse. Voilà, l'autre jour, j'ai acheté des livres et puis je paye et le caissier me dit, ah, je peux me permettre, j'aime beaucoup ce que vous faites, vraiment. Je dis, ah, bah, c'est gentil, merci, voilà.
Et c'était la pub d'EDF.
J'adore la pub d'EDF. C'est du doublage. Mais oui, les gens nous reconnaissent. Puis les gens vraiment s'intéressent de plus en plus au doublage, je trouve ça étonnant.
C'était une des questions que j'avais notées quelque part. Est-ce que tu as eu un sentiment à un moment donné, justement, qu'il y avait une désuétude du doublage et qui est revenue ces dernières années ?
Une désuétude, non, je me rends pas compte. Il y a cette discussion tout le temps sur les réseaux VOVF, etc. Donc, honnêtement, moi, je m'en fous un peu. Maintenant, on a le choix en plus, donc c'est même plus une question. Avant, éventuellement, évidemment, tout le monde a écouté de la VF. Et tout le monde n'avait que la VF. Maintenant, on a le choix. Donc, si tu préfères la VO, t'écoutes la VO. Moi, j'écoute plein de trucs en VO. Je devrais pas le dire. Mais j'écoute plein de trucs en VO. La VO. Non, mais soyons honnêtes. La VO, au départ, c'est la VO. Elle sera toujours mieux, entre guillemets. Nous, on fait ce qu'on peut, mais c'est la VO. Après, il y a cet attachement à la VF en France. qui s'est développé, bon, pour plein de raisons. J'en ai profité, j'ai fait plein de trucs grâce à ça. Et alors une désuétude, non, je vois pas trop. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, on était, ce que je disais tout à l'heure, on était à part, on voyait pas notre public. Et puis petit à petit, en fait, les premières personnes dont je me suis rendu compte qui s'occupaient, c'est les gens qui s'intéressaient à nous, des gens qui étaient soit dans des journaux, soit qui faisaient des fanzines.
Ok.
Voilà, un des premiers contacts que j'ai eu avec quelqu'un qui s'intéressait au doublage, il faisait un fanzine sur Dallas. Parce que j'ai doublé dans la fin de Dallas, ok?
Sacha Mitchell
que je doublais dans Notre Belle Famille. C'est quand même un truc culte. Dans Dallas, il était très mauvais. Mais n'empêche qu'il y a un mec qui trouve mon numéro, quoi.
Okay.
Et là, on s'est dit, oh, c'est curieux. Donc, il y a des gens qui nous écoutent. Parce que même nous, il y avait une certaine distance. On ne se rendait pas compte qui écoutait, qui regardait. Mais en vrai, il y a aussi un succès que j'explique. Parce qu'à l'époque, il y avait moins de chaînes. Tout le monde, il y avait...
Oui.
Vous étiez plus nombreux à regarder les mêmes choses.
Ah, il n'y avait pas cette diversité qu'il y a aujourd'hui.
Voilà, on va dire l'effet Dragon Ball, par exemple, il vient aussi en partie de là. Mm. C'est que de toute façon, ils sont une génération entière à l'époque, il n'y avait que ça, de toute façon, donc ils le regardaient. Non, mais honnêtement, là c'est maintenant, clair. Avec tous les canaux de diffusion qu'il y a, c'est plus éparpillé. Donc c'est aussi ce qui fait que certaines voix sont sorties du lot, entre guillemets, quoi.
Mais, donc, ouais, t'as fait quand même Joey dans Friends, Dragon Ball Z avec Trunks, Gohan. Est-ce que c'est le fait d'avoir fait ces voix qui sont connues et reconnues, ça t'a pas fermé quelques portes à certains moments?
Ah bah si, il y a des moments où, par exemple, à l'explosion de Friends, et notamment nous, on est parti avec Emmanuel à la fin, j'ai fait beaucoup moins de doublage, parce que nos voix, on se rend pas compte, mais elles étaient... Enfin, c'était partout. Donc, on voulait plus nous mettre ensemble, déjà, pour plus recréer le couple Chandler-Joey. Donc nous on a fait de la pub ensemble, ce que je te disais tout à l'heure, on a fait de la pub ensemble, mais très peu de doublage ensemble derrière, alors qu'avant on avait fait plusieurs films ensemble. Et puis bon, à l'époque j'étais sur Europe 2, je faisais voix antenne, puis je faisais des tas d'autres trucs, je faisais de la musique, tout ça. Donc j'ai fait moins de doublage à ce moment-là, parce que oui, nos voix étaient partout, quoi. On a même été remplacés, c'est une des raisons pour lesquelles on est parti d'ailleurs. On a même été remplacés sur des gens qu'on commençait à doubler, quoi, tu vois, qu'on avait déjà doublé régulièrement, on nous remplaçait. Parce que je disais, ah non, on vous entend beaucoup, etc. Donc, oui, tu peux être marqué. Surtout qu'il faut quand même dire une chose, que les gens se rendent compte, Friends, ça prend une place énorme dans ma vie et je suis super heureux. Mais on faisait une saison représentait 24 épisodes et nous, on faisait 2 épisodes par jour.
Ouais.
Donc, ça fait 12 jours de boulot par an. Personne, voilà, c'est de boulot, quoi. Hein, fallait qu'on fasse d'autres choses. Donc, je regrette pas du tout évidemment d'avoir participé à ça, mais
c'est rapide, quoi. 12 jours, c'est pas grand chose sur une année.
Non, on aurait bien aimé prendre plus de temps. Déjà rien que pour améliorer notre boulot.
Ah ouais, parce qu'il y a des trucs sur lesquels vous étiez pas satisfait. Bah, même toi, aujourd'hui, il y a encore des choses sur lesquelles t'es pas...
Alors moi, je suis très critique par rapport à ce que je fais, donc j'aime pas mon contenu, donc ça, c'est déjà un problème. Mais à part ça, oui, il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux. Après, à l'époque, on enregistrait tous ensemble au micro. Donc, ce qui était génial, on s'entendait bien. Il y avait vraiment, on essayait de recréer cette ambiance de troupe que eux avaient. Mais eux, ils mettent 15 jours à faire un épisode.
C'est clair.
Et puis, ils le jouent sur scène. Il y a les réponses du public. Donc, nous, à notre façon, un petit peu, on essayait de retrouver cette énergie-là parce que on venait tous de, on avait tous fait de la scène. On aimait tout ça. On s'entendait bien. Il y avait des moments, on essayait de profiter, en tout cas, de cette énergie pour faire le mieux qu'on pouvait. Et puis, parfois, on trouvait des gags mieux que ce qui était écrit sur le texte de base. Je sais qu'on a beaucoup reproché l'adaptation du texte, parce qu'il faut savoir que nous, on n'écrit pas. Hein, là, on arrive, tout est écrit. Par contre, à l'époque, on était un peu moins surveillés, entre guillemets. Donc, on pouvait rajouter des trucs. On a improvisé des choses, on a amélioré des choses. D'ailleurs, l'auteur... Vraiment, je le défends à chaque fois parce que on dit parfois que son texte était moyen, mais c'était une autre époque. À ce moment-là, il demandait beaucoup aux auteurs de doublage de plus franciser les séries, les films, les œuvres, les noms. Donc, on laissait très peu de jokes très américaines, très new-yorkaises, par exemple. S'il y avait une blague sur le maire de New York, eh ben, il mettait autre chose, il essayait de trouver autre chose.
Un truc qui parlait avec...
Voilà. Maintenant, on ne le ferait plus comme ça.
Oui.
Donc, ça, c'est une question d'époque aussi. Et puis, une petite censure par rapport à certains trucs, pas de gros mots, tout ça, voilà. Par exemple, un scoop, les trois premières années, on l'a donc doublé pour Canal Jimmy.
Ouais.
Donc, quand Emmanuel Curtil, il y avait Janice qui faisait « Oh my God !» Quand Curtil voit que ça devient un gag, il le fait en anglais, avec un accent français affreux. Il fait « Oh my God !» Voilà, comme il faisait. Nous, on a fait ça les trois premières années. Quand? Alors, ça devait être France 2, ça s'appelait à l'époque. Antenne 2, peut-être, ça s'appelait.
Bah, en tout cas, c'est sur France Télévisions.
Donc, quand ils le récupèrent, eh ben, ils nous ont demandé de refaire des retakes, ce qu'on appelle, donc de redoubler des bouts. Et notamment, ils ont voulu qu'on fasse « Oh mon Dieu » au lieu de « Oh my God » pour ne pas garder le mot en anglais. Et c'est dommage. Donc, voilà le genre de petite censure qu'il y a eu sur le texte. Et tout ça pour dire que, bah oui, on improvisait des trucs, on était là comme une troupe. Et pour nous, c'était hyper important de faire c'est des sitcoms, hein, il faut les faire comme ça, avec beaucoup de. C'est du théâtre, hein, c'est du théâtre, c'est du vaudeville.
Ça se ressent en tout cas.
Ouais, pardon, vas-y.
Non, mais ça se ressent en tout cas, cette énergie-là que vous avez voulu donner, en plus de ce qui était déjà créé. C'est une des choses en fait qui m'a frappé dans la qualité de la VF. Au-delà du fait que je m'y intéresse énormément.
Non, mais je crois que ça a embarqué beaucoup de gens. Ouais, les gens sentaient qu'il y avait vraiment... Puis on aimait cette série quand même, tu vois. Comme on n'était pas tout le temps en studio, on n'y était que 12 jours par an. Ouais. Quand on arrivait, on ouvrait la porte en grand, on foutait le générique à fond. Et on était en haut dans les étages, parce que c'était AB Prod qui avait les droits en fait sur ça. Et on était donc là-bas, à la Seine-Saint-Denis, à la Plaine-Saint-Denis, dans les étages. Les studios de doublage étaient là-haut. Et nous, on ouvrait en grand, il y avait d'autres studios. Et tout le monde râlait. Parce qu'on faisait un boucan de feu de Dieu avec le morceau de Friends qui passait, quoi.
C'est long.
Avant qu'on enchaîne avec la dernière partie de l'émission, on va écouter un son. C'est un autre son que tu m'as partagé. C'est Feu Chatterton, Avant qu'il n'y ait le monde.
Ouais, j'adore.
On revient juste après. On va chialer.
Si je fais mes cils charbonneux et mes yeux de plus de lumière et mes lèvres plus écarlates demandant à tous les miroirs si tout est comme je veux, nulle vanité je recherche, le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait le monde. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Qu'importe si je regarde un homme tout comme si c'était mon amour quand pourtant mon sang est demeuré froid, mon cœur ne bat pas plus vite. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant. Mon sang est demeuré froid.
pas plus vite qu'avant. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde.
Et voilà, c'était donc... Feu Chatterton avant qu'il n'y ait le monde. Excusez-moi parce que on parle en
langue. Je raconte des blagues. Vous entendez pas.
Et t'avais donc une anecdote que tu racontais juste avant sur Copain de moi.
Alors, Copain de moi, c'est vraiment par rapport au truc qu'on a un peu inventé. Copain de moi, ça vient d'un autre film qu'on a fait avec Emmanuel Curtil, qui donc double Chandler. Et c'est deux losers, c'est une sorte de sous Wayne's World, quoi.
D'accord.
Deux losers qui veulent faire un groupe de rock, mais qui sont vraiment ringards. Et je sais pas pourquoi, il y a un moment, c'est venu, on doit se présenter. Fait, tiens, bah, c'est un copain de moi. et puis, quand il y a eu Friends, on l'a ramené. Voilà.
Et mais, ça, c'était une impro.
Ça, c'est une impro, ouais. Mais si vous écoutez bien dans Friends, il y a plein de petites choses, notamment aussi quand ils rentrent au Perk Café.
Ouais.
On avait remarqué, tous, ils arrivent toujours à faire hello, tu vois, hey, tu vois, ils arrivent comme ça. Donc, nous, on faisait salut et. Un jour, Curtil fait salut. Moi, je fais salut, salut. Et après, on harmonisait toujours de salut. Et il y a des fois, on a le même fait avec Maïk, avec d'autres, où on faisait carrément, tu vois, on faisait à la do-mi-sol. Salut. Des petites polyphonies. On s'amuse comme on peut.
Pauline, est-ce que tu veux reposer une question?
Parce que Geoffrey, il est en train de se marier, il peut plus.
Ah ouais, hein,
il peut plus,
hein. Ah ouais, moi je passe le meilleur moment. Ouais, tu m'assois, je suis hyper heureux, mais faut que j'anime.
Et tu bosses là, Geoffrey, faut bosser.
Oui, j'ai une dernière question, mais plus sur le métier au global.
Ouais.
Est-ce que vous n'avez pas peur que l'IA vienne un peu chambouler tout ça?
C'est la prochaine question.
Ok, bon, en fait, je ne parlerai qu'en présence de mes avocats. C'est là que je me casse. Comment dire, bah, l'IA, je suis inquiet pour les plus jeunes d'entre nous, surtout parce que, bon, voilà, moi, je continue à bosser, mais c'est l'avenir, ça va surtout toucher les plus jeunes. Et puis surtout, ça va toucher, parce qu'on pense à nous, aux voix, mais moi, je suis inquiet pour mes potes, ingé-son, monteurs, auteurs, etc., parce que ça va toucher tout le monde. L'IA, le problème qu'on a, alors pour l'instant, c'est pas très grave, mais sur TikTok, notamment, on prend nos voix pour nous faire dire, alors c'est des blagues un peu potaches, là, pour l'instant, mais si on nous fait dire des choses plus graves, politiques, ou etc., là, ça va commencer à nous gêner. Il va falloir légiférer, mais nous, à notre petit niveau, on ne peut pas faire grand-chose. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ça va toucher... Le truc, c'est que je pense que ça ne va pas toucher les grosses prods, les beaux films, les grands films. Il y aura toujours besoin d'acteurs pour doubler, de gens qui mixent les films, etc. Mais là où ça va commencer par grignoter du boulot, c'est par exemple, on fait ce qu'on appelle des voice-overs. C'est quand tu entends encore la version originale derrière. Nous, on pose notre voix là-dessus. On joue pas vraiment, c'est un entre-deux. Tu sais, c'est les trucs sur les chercheurs d'or.
Les camionneurs de l'extrême.
Ouais, voilà. J'ai fait un truc de fantôme aussi.
Les chasseurs de fantômes, là.
Ouais, j'ai fait un truc de chasseurs de fantômes. Bon, ces trucs-là, par exemple... Pour l'instant, ils n'ont pas encore eu l'idée, mais quand un jour un des diffuseurs va dire « Mais dis donc, on pourrait pas
mais
faire
quand un
petit
jour va écouter, quand un des diffuseurs va ça, écouter voilà. Galéjade, il va se dire « Ah, tiens
!» Ouais, ça se trouve, ouais, je suis en train de filer la mauvaise idée. Et donc, mes copains Gesson m'ont expliqué qu'en fait, là où ils sont quatre pour chapeauter un projet comme ça, entre l'auteur, le chef de prod, le mixeur, le mec qui enregistre, bah, il y aura plus qu'un mec pour valider le truc à la fin. Et c'est trois boulots qui vont passer à la trappe. Et c'est dommage. Et l'IA, elle va attaquer surtout par ce bout-là. Mais dans l'audiovisuel, le problème, c'est que dalle par rapport à ce que ça va être dans toute notre société. Mais ça, c'est un autre problème. Après, je pense que c'est un outil qui est une façon de s'en servir. Je fais confiance aux artistes, notamment aux créateurs, qui vont certainement trouver des façons de s'en servir tout à fait personnelles et tout à fait de façon créative, comme... quand il y a eu, par exemple, pour les musiciens, je veux dire, quand j'étais gamin, je pouvais pas me payer un studio pour aller enregistrer, etc. Maintenant, j'ai un petit studio chez moi, quoi. Donc, on profite aussi de ces évolutions technologiques. Donc, moi, je ferme pas la porte complètement. Par contre, il faut qu'on vive de nos métiers. Et déjà, il y a un problème avec les droits d'auteur, tout ça. Là, il faut faire très, très attention et il va falloir s'attaquer rapidement au problème.
On est d'accord. je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Toi, ta consommation, tu disais que tu regardais aussi en VO.
Oui.
Mais j'ai envie de dire, la VF aujourd'hui, si tu écoutes quelque chose en VF, est-ce que tu as un œil critique en disant ah tiens, moi, ça je l'aurais pas joué comme ça, ou ah tiens, c'est Donald, c'est Emmanuel.
Alors, j'écoute, je suis très bon public, donc quand je regarde vraiment pour le plaisir de regarder, je me détache vraiment de ça et j'arrive à regarder une VF sans être là à dire c'est un tel, je l'aurais pas joué comme ça. J'arrive vraiment à me détacher parce que j'aime bien le boulot que font les compos, les copains, et j'ai toujours beaucoup de plaisir. De toute façon, voir les artistes sur scène, les gens jouer ou les écouter. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Mais on va dire que ce que je trouve par rapport à la VF, il y a une standardisation qui est liée à la masse aussi de tout ce qu'il y a. Mais elle existe aussi d'ailleurs dans les scénars, dans la façon de tourner, dans la façon de monter, dans la façon de découper, etc. Et du coup, ça existe aussi dans le doublage. Moi, j'ai connu donc les gens, je dirais, par exemple, par rapport aux animés, il y a quand même un style.
On est d'accord.
On est d'accord, selon les mangas, selon si c'est de la baston, si c'est des trucs un peu romantiques, c'est des trucs dans un lycée, il y a des styles de jeu. Quelque part, qu'on a, alors, vraiment toute une humilité qu'on a créé nous, à l'époque,
oui.
OK?
Oui, oui.
Maintenant, les jeunes, ils sont très bien, mais ils ont ça dans l'oreille, donc ils reproduisent.
Automatiquement, oui, il y a un petit peu de... Ouais.
Et ça me fait bizarre, voilà. Ça fait partie de cette standardisation et je sais pas ce que ça va devenir, en fait, en vrai. Donc,
En parlant d'animé, je peux pas passer à côté. Puisque tu es l'un des personnages iconiques de la série Jujutsu Kaisen. Ouais. Si c'est pas le personnage le plus iconique de la série, tu as l'honneur de doubler Gojo. Ouais. Satoru Gojo.
Extension du territoire.
Bon, voilà, c'est génial.
Sphère de l'espace infini.
Ouais,
bleu. Rouge. Je vais te buter!
Ah putain, mais je passe le meilleur moment de ma soirée.
Non, c'est magique en fait. On m'appelle pour ces trucs-là. Je bosse moins qu'avant. C'est très bien. C'est un choix personnel aussi, hein, que ce soit clair. j'adore. On m'appelle pour faire ces trucs-là. J'arrive. J'ai même pas passé de casting. On a pensé à toi. Je vois le personnage. Je fais, mais grave, quoi. C'est des chaussons, quoi. Il est tellement insolent. Il passe tellement d'un truc complètement barré. Un truc où il fout les jetons. Ça me change de Dragon Ball. Il gueule pas du tout. Tu vois, par rapport à Broly, qu'on voit tout le temps, qui est tout le temps en train de hurler. Et je trouve ça, c'est super d'être appelé. Je trouve que j'ai beaucoup de chance. Je le redis vraiment. J'ai eu, depuis le début, énormément de chance de participer à tous ces doublages. Vraiment, je suis très, très reconnaissant.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des films, là, des fois, tu retombes dessus, tu regardes, tu fais « Oh, voyons, le film, il a pas l'air top. »
Je me cache, ouais, je suis sous le tapis. Ouais.
Et tu te rends compte que tu doubles quelqu'un dedans.
Oui.
À un moment, tu regardes le film,
Il y a des trucs que j'ai oubliés. Il y a des trucs que j'ai oubliés, c'est obligé. Oui, ça arrive. Plutôt sur des petits rôles, quoi, tu vois.
Ouais.
Mais c'est moi, ça.
Un petit rôle dont on a parlé également tout à l'heure dans une autre série qui a marqué après Friends, qui
s'appelle
I Met Your Mother. T'apparais qu'un épisode, mais tu doubles l'un des personnages les plus iconiques.
Ah, mais tout le monde, il a marqué tout le monde. Le mec à poil.
Rien que ça, c'est génial.
Le mec à poil. Il a pas de nom d'ailleurs, je crois.
Non, non, c'est le mec à poil.
C'est le mec à poil.
Ouais, ouais, on est d'accord.
Ah bah, il est génial. En plus, il est à la base de la série quelque part.
Parce que c'est un running.
Ah oui, oui. Donc si tu veux, bah voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On m'appelle pour ce genre de truc. Et j'adore. Je veux pas savoir. Alors on a c'est les directeurs artistiques souvent qui proposent nos noms parce qu'ils nous connaissent tout ça. Le client, on peut avoir des castings à passer, faire des essais. Tu as les clients. Bah, évidemment, les clients finissent par te connaître. Les diffuseurs, donc ils disent oui ou non des fois sans que t'aies à passer d'essai. Mais des fois, je veux pas savoir pourquoi le directeur artistique a pensé à moi. Je te parlais d'un autre rôle dans Doom Patrol. Je fais un cafard qui chante des psaumes, qui finit par devenir géant, qui veut détruire tous les humains de la planète pour prendre le pouvoir. Et il fait tout ça en chantant des psaumes. Oh, plus près de toi, mon Dieu, etc. Tu vois. Et c'est un prédicateur. Et je sais pas pourquoi on m'appelle pour ce truc. Mais moi, j'adore. Hein, surtout, changer rien. Hein. Ça me va très bien.
Et j'avais une dernière partie, parce que je vois que le temps passe quand même assez vite.
Oui.
T'as été directeur artistique et notamment de la saga Batman Arkham.
Ouais, ouais, j'ai beaucoup fait ça.
Comment
des jeux.
Ouais, comment tu te retrouves à, tu passes de l'autre côté à diriger l'entièreté du truc.
Bah, c'est arrivé, j'en ai vraiment dirigé beaucoup. Alors, c'est pas ça que j'ai dirigé au départ, mais j'en faisais beaucoup en tant que comédien. Tu vois, puis je suis un vieux geek quand même, vieux gamer. Alors moi, au début, quand j'ai démarré, il y avait même pas de voix. Hein. C'était des trucs en 8 bits qui faisaient tout, 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 tout. Tu vois, les mecs tout pixelisés. J'ai l'impression qu'ils étaient
Mario.
Ouais, ouais, c'est ça, Mario. Golvilius, qu'est-ce qu'il y avait. Enfin, voilà, des trucs comme ça.
Alex Kidd.
Ouais. Et puis on commence à foutre des voix là-dessus. Donc j'en ai fait plein. Tu vois, des trucs de skateboard, des trucs comme ça. Et puis un jour, en rigolant, il y a une boîte que j'aimais bien avec qui je bossais. Je dis ah ben dis donc. T'as besoin de directeur artistique, des fois, pourquoi pas, j'essaierais bien, quoi. Et évidemment, on me propose un jeu tout pourri de guerre qu'il faut faire entre 20h et minuit, tu vois, avec un ingé son qui n'a pas du tout l'habitude, qui d'habitude fait des trucs super léchés, tu vois, soft, des trucs de pub et tout. Et puis là, tout d'un coup, il se retrouve à enregistrer « Grenade !» Voilà. Et puis, bah, j'ai fait mes armes comme ça. Et puis, un jour, on me propose... alors, il y a une réunion, tu vois, tout ça est très... Il ne faut rien dire, c'est très top secret. Et on te dit, ça t'intéresserait de diriger un truc sur Batman ? Je fais, oui, oui, l'air très dégagé. Je fais, oui, pourquoi pas ? Et à l'intérieur de moi, tu as le petit Marco qui fait, ouais, Batman ! Parce que j'étais un vieux fan, évidemment. Je suis un vieux fan de BD et de comics. Donc, je me trouve embarqué là-dedans. Et franchement, royal, quoi. Une équipe super... libre, Warner Games me laisse vraiment... Après le premier, notamment, ils m'ont laissé le champ libre sur mes choix, sur mes trucs. Vraiment, super qualité.
Ouais, parce que le top...
Et a priori, ça marche bien.
Ouais, non, parce que le travail est
j'ai adoré faire ça, c'est un plaisir. Quand tu penses à un acteur sur un rôle et que tout d'un coup, tu l'as devant le micro...
Ouais.
Et que c'est encore mieux que ce que tu avais imaginé. Tu fais, ouais, c'est trop bon, quoi.
Ouais. Ouais, pas mal.
Encore une fois, je suis très bon client, j'aime bien voir mes potes bosser en fait. Ouais.
Il est déjà temps de passer le dernier son de l'émission.
Oh là là.
Et ouais, c'est un son que j'ai choisi. C'est un groupe que j'ai vu ce week-end en concert à Rennes. Il s'appelle Les Trois Accords, ils sont québécois. Et le titre, c'est Je me touche dans le parc.
Dans la rue, je poursuivrai mes avances sur mon bras. ce que l'on vienne me prendre. Je me touche dans le parc, les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers débarquent. Quand je me touche dans le parc, les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers débarquent. Quand
Et voilà, c'était donc les trois accords avec Je me touche dans le parc. On est toujours dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3 Le Mans. C'est déjà la fin de l'émission, il nous reste 5 minutes, même pas. J'ai encore envie de poser tellement de questions, mais...
On fera un épisode 2.
Avec un plaisir.
J'en reviendrai.
Alors moi, c'est avec un grand plaisir. mais on termine l'émission toujours par une petite recommandation culturelle. Je crois que je t'en avais parlé, je ne sais plus.
Oui.
Pauline, est-ce que toi tu as quelque chose que tu aimerais recommander culturellement? Je vous laisse le choix.
J'y ai pas forcément réfléchi, je vais laisser.
Mais sur quoi? Sur ce qu'on veut?
Sur
je
ce
note
que
des
tu
trucs,
veux.
Moi, parce qu'en fait, sinon. Allez, BD, on va dire.
Parce qu'il y a toute une partie de l'émission, finalement, j'ai pas fait. Hein. Je t'avais posé plein de questions avant et, et on était tellement dans le truc que toutes les recos.
Parlons d'un truc. Alors, l'adaptation, je sais pas si vous connaissez les nouvelles de Murakami.
Non.
Il y a eu une BD faite qui s'appelle Le Septième Homme de Devenet et PMGL, qui est le dessinateur. C'est super bien adapté.
Ça, je vais
et noter. C'est des petites nouvelles. Si vous ne connaissez pas Murakami, vous pouvez lire aussi. C'est des nouvelles, c'est complètement barré. Voilà, mais tout ce qu'on aime. Mais beau, très poétique aussi. Voilà. Et les dessins, l'adaptation est super réussie. Et si j'ai bien compris, il y a une petite histoire. C'est que ça n'avait jamais été fait en France comme ça.
D'accord.
Et qu'en fait, personne ne voulait les éditer. Ils ont envoyé au Japon. Il a adoré. Et en fait, ça a d'abord été édité, si je me rappelle bien de la petite histoire, au Japon, et du coup, c'est revenu en France. C'est quand même dingue.
À l'histoire est folle.
Mais c'est une belle histoire. Donc voilà, Murakami, Le Septième Homme. Ça sera ma petite recommandation.
Pauline,
et sinon, voilà. Sinon, allez au concert, allez au théâtre, lisez des livres.
On est d'accord.
Ne lâchez rien.
Et regardez Friends. C'est important.
Et regardez Friends, et voilà.
En VF.
Alors.
Merci Pauline.
Tu vois, ça va aller avec Marco, parce que, comme je le disais, hein, j'ai écouté pas mal d'émissions où t'étais dedans, Marc, et il y a une série dont t'as pas mal parlé et que
ah
je
oui.
connaissais, qui s'appelle Épisode avec Matt Leblanc, ouais, justement.
C'est un petit bijou.
Alors, ouais. Moi, j'ai pas tout vu, j'ai vu que les deux premières
alors,
saisons.
Alors, je te spoil pas, mais alors, à la fin, il se passe un truc. non, je déconne. Mais regardez Épisode, vous allez voir Matt Leblanc plus vieux, une sorte de Joey pour adulte, on va dire. On peut dire ça un peu, quoi.
Le pitch, c'est un couple d'anglais qui se retrouve à aller adapter leur série qui a cartonné en Angleterre aux États-Unis. Mais ça marche pas exactement comme en Angleterre.
Non, on leur colle Matt Leblanc qui est un peu... alors, il se caricature lui-même, c'est oui. Matt Leblanc. Tout le monde l'appelle Joey dans la
oui.
rue. Il a plus de boulot, mais il est millionnaire, évidemment.
On est d'accord.
Et il trouve pas de trucs. Et c'est... voilà. Et lui, et tous, ils sont superbes.
Ouais.
Il y a une sorte d'opposition entre de l'humour anglais et de l'humour américain. Donc, c'est très bien écrit. Vraiment, il y a une belle écriture, le scénario. C'est chouette. Et c'est une série qui a une fin. Et j'aime bien, moi.
Ce qui est assez rare.
J'en ai marre de ces séries où les mecs vont trop longtemps. Non, mais c'est vrai, c'est dur d'être...
C'est de pouvoir terminer correctement une série, c'est très rare.
C'est souvent un gage de qualité qu'il y ait une fin. Non, mais c'est bête ce que j'ai au niveau du scénario. Dans l'écriture, c'est hyper important. Hein. Un truc mal écrit, tu peux pas bien le jouer. Hein.
C'est clair. donc, comme je le disais, c'est la fin de l'émission. Si vous voulez retrouver Marc sur...
Pardon.
Marc sur Internet, enfin sur son compte Facebook, c'est Marco on the web.
C'est ça.
Marco avec un K.
Je mets très longtemps à répondre par contre, hein. je suis quand même...
c'est pas grave.
Mais venez nombreux.
comme ça, vous pourrez voir toute son actualité. Si vous voulez, Pauline, tu as quelque chose que tu aimerais partager en compte ou pas du tout?
J'ai un compte Instagram qui est un peu en sommeil en ce moment. Mais
qui s'appelle Friends Forever and Ever.
C'est vrai?
Non. Arrête, tu vas me faire passer pour une groupie, là. Non. C'est un compte totalement perso où je partage un peu de tout, mais pour l'instant, il est en sommeil, donc ça vaut pas forcément le coup.
Ok.
Partager pour l'instant, mais à venir.
Pour l'émission, si vous voulez retrouver donc Galéjade sur Instagram, c'est galéjade_émission, sur Facebook galéjade.émission. L'émission sera disponible en podcast sur le site de Radio Alpa et sur toutes les autres applis de podcast. Si vous écoutez le direct, on va vous laisser avec Delphine et Vertige. Si vous écoutez l'Ardif, je vous laisse donc avec Oblique. Et si vous écoutez le podcast, eh ben, je vous laisse avec ce que vous voulez, de préférence un autre podcast de Galéjade. Ça fait toujours plaisir.
Autopromo.
Passez une bonne fin de journée et à très vite. Merci encore à toi, Marc.
Mais merci pour l'invite, c'était super. Salut à tous.
Qu'est-ce qu'on s'ennuie? C'est l'heure de galérer.